Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Alexis Bouchard. Il est secrétaire national des jeunes socialistes et il est venu jusqu'à nous en studio pour être en direct ce matin. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour Stéphane Hamon, bonjour à toute l'équipe et à nos auditeurs.
Alors, on va essayer d'être sérieux là, c'est difficile des fois après Christophe Hamon.
Ouais, mais ça fait du bien pour rentrer dans le jeu.
Voilà,
dans le bain.
Parce qu'on va parler d'actualité et puis elle n'est pas toujours facile l'actualité, y compris l'actualité politique. Beaucoup d'actualités au PS ces derniers jours, beaucoup aussi de fractures plus largement dans l'union de la gauche. On a entendu les propos de Fabien Roussel. Est-ce que l'union de la gauche aurait quelques fissures?
Quelques fissures, ouais, ce serait assez difficile de ne pas l'admettre, dans le sens où effectivement au niveau national, on se morfond, se complaît parfois dans des invectives qui n'ont pas trop de sens, si ce n'est, disons, promouvoir les ambitions personnelles des uns ou des autres, et y compris même au niveau local. On a un dernier exemple en date qui est Frédéric Mathieu, député insoumis de Rennes, qui a fait part dans une interview à Ouest France de son ambition pour la municipale de Rennes, tout en critiquant un petit peu, disons, l'action de Nathalie Appéré de l'Union de la Gauche, en tout cas à Rennes, pour le cas que je connais, mais ça arrive aussi dans d'autres territoires. Je trouve ça un petit peu dommage, puisque à l'heure où, en fait, il y a un an aux législatives, les Françaises et les Français nous ont fait confiance dans le cadre des élections législative, l'obligation pour nous de rester tout à fait unis, de combattre ensemble la droite libérale et l'extrême droite pour répondre aussi aux crises sociales, écologiques et démocratiques, et donc se morfondre dans les polémiques un petit peu futiles comme peut le faire aussi Frédéric Mathieu à Rennes. Je trouve ça assez dommage. On a suscité l'espoir l'année dernière. Il y a des gens qui n'avaient jamais voté ou qui avaient aussi un petit peu perdu le goût des urnes, qui sont retournés aux urnes un petit peu grâce à l'Union de la Gauche, grâce à l'espoir que nous avons suscité, y compris même dans les quartiers populaires et les milieux ruraux. C'est un petit peu dommage, voilà, d'en rester là aux ambitions personnelles. Il faut construire, si d'aventure il y a sur le fond des divergences, des crispations, les établir, les acter ensemble, et c'est ce que nous avons aussi un petit peu tenté de démarrer, disons, avec les jeunes socialistes, les jeunes écologistes, Génération et Insoumis, les jeunes de la NUPES, comme on le dit, puisque nous avons lancé, effectivement, en avril dernier, le Forum européen des jeunes de la NUPES, qui avait vocation à, effectivement, dresser un cadre de travail, de discussion dans le cadre des élections européennes pour, à défaut de parvenir à une liste unique pour les élections européennes, au moins établir des discussions, voir sur quoi nous divergeons, voir ce sur quoi nous sommes d'accord. Et nous sommes parvenus à écrire, publier 166 propositions sur la justice sociale et climatique, sur l'Europe de la démocratie et de la paix. Nous nous sommes attelés, disons, à ce que nos aînés n'ont pas pu ou n'ont pas eu le courage de faire. Et nous, en responsabilité, nous l'avons fait. Nous continuons le travail et la bataille pour l'Union, qui est une priorité pour nous, et nous allons essayer de convaincre nos candidats respectifs, nos listes respectives, nos chefs de parti respectifs d'aller dans le bon sens, de cesser ces invectives et de surtout, potentiellement, à défaut d'avoir une liste unique, permettre un socle de propositions communes dans le cadre des élections européennes. C'est ce pourquoi nous allons nous battre et c'est ce pourquoi nous devons nous battre.
Alors, beaucoup de choses hein, dans ce que vous dites, Alexis Bouchard, et puis aussi cette forme d'union quand même avec les écologistes pour les européennes qui vont, en tout cas les élections européennes, être l'enjeu des prochains mois, puisque ça va venir très vite, le mois de juin 2024, et cette montée de l'extrême en France, on pense au RN, c'est une question que j'ai posée à quelques-uns de nos intervenants ici dans la matinale, de nos invités. Est-ce que c'est quelque chose qui est de nature, cette montée de l'extrême droite, cette montée du RN, à vous inquiéter, à vous dire, voilà, il faut faire quelque chose, car quelque chose nous échappe, c'est finalement politiquement.
Mais surtout, ça nous oblige à rester unis, à travailler ensemble et cesser ces invectives personnelles qui, au lieu de nous parvenir, enfin, nous permettre de gagner, d'avoir une majorité dans ce pays à gauche, de faire des scores plutôt rédhibitoires à 1, 2, 3%, je veux dire, se battre pour quelque quelques miettes, je ne vois pas l'intérêt. Mmh. On peut être les meilleurs perdants, les pires perdants, mais en l'occurrence, on ne gagne toujours pas. Et à l'heure où, effectivement, on peut parler des dernières sénatoriales, l'extrême droite fait une entrée certes mesurée au Sénat, mais fait une entrée tout de même.
Trois sénateurs
du Rassemblement National, il y a 15 jours au Sénat, nous obligent effectivement à rester unis, en tout cas à ne pas nous morfondre dans de la politique politicienne. On doit à un moment donné rester un petit peu sérieux et à défaut de parler de posture, parler de fond, parler de ce qui ne va pas. Et en l'occurrence, je sais Olivier Faure et le Parti Socialiste engagés en ce sens. Nous avons voté hier pour notre stratégie et notre programme aux élections européennes. Nous avons acté effectivement ce sur quoi nous projetons et ce sur quoi nous proposons dans le cadre de ce scrutin. Et nous proposons effectivement à nos partenaires d'en discuter s'ils le souhaitent sur la base de ce programme pour potentiellement définir des axes de combat communs. Et c'est ce sur quoi nous devons nous battre, à défaut de ces postures politiciennes qui ressassent sans cesse et qui finalement entretiennent le désespoir des gens qui aspirent à un changement profond de leur vie, des conditions de travail plus dignes, une attaque franche et frontale dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et alors, effectivement, où l'extrême droite, ne cesse de polémiquer et de déverser, de vomir son discours raciste, homophobe, antisémite, sexiste, identitaire, que sais-je, nous devons faire bloc. Le Rassemblement National, d'ailleurs, se donne à cœur joie à l'occasion de la loi immigration qui va être présentée par le gouvernement ces prochains jours, ces prochaines semaines, de multiplier les fausses informations. Il ne faut pas oublier que la France est la fille de l'immigration, que la République est notre âme à toutes et tous. Et donc, le Rassemblement National, il faudra aussi faire un travail de pédagogie, de dire que c'est ni la République ni la France que d'invectiver les enfants de la République.
Alors, justement, il y a des préoccupations. Les Français sont préoccupés par pouvoir manger, se loger. On est en 2023 en France. On a des étudiants qui n'arrivent pas à manger à leur faim tous les jours. On a du mal à payer parfois les factures d'électricité, etc. Il y a cette crise qui est là. Alors, on va pas toute la déballer parce qu'il faudrait beaucoup de temps et je ne suis pas sûr qu'on ait les solutions ce matin au micro de la matinale, mais elle est là, cette crise. Puis il y a aussi une angoisse, des migrants qui arrivent, des réfugiés qui arrivent. Il y a une interrogation. Est-ce que justement ces questions importantes, comme l'inflation évidemment, comme cette arrivée massive de réfugiés, est-ce qu'il va falloir que les partis de gauche s'emparent de ces questions de façon peut-être plus forte, si vous me permettez le terme?
Tout à fait. En ce qui concerne l'inflation, nous sommes engagés depuis déjà un certain nombre d'années, et en l'occurrence depuis les législatives dernières. Je me répète encore une fois, mais nous avons un certain nombre de propositions qui ne sont pas reprises effectivement par la droite, la droite au pouvoir, et en tout cas l'extrême droite pour ce qu'il en est de l'opposition. Nous alertons effectivement sur la hausse des prix, notamment dans l'alimentaire, dans l'énergie, vous l'avez rappelé. Le fait aussi que les salaires stagnent, c'est quelque chose de plutôt scandaleux. Nous, on propose effectivement que les salaires soient indexés sur l'inflation, comme ça a été fait sous François Mitterrand, pour permettre effectivement aux gens de pouvoir ne pas subir, les caprices d'actionnaires, de grands patrons qui s'enrichissent sur le dos des travailleuses et des travailleurs. Plutôt que demander, comme Bruno Le Maire, ministre de l'économie, le fait effectivement aux industriels, notamment de l'agroalimentaire ou de la grande distribution, nous voulons poser des actes forts, avoir, une politique volontariste pour permettre effectivement à chacun et à chacune de vivre dignement. Et en ce qui concerne l'immigration, effectivement, ce n'est pas un sujet à écarter. C'est pourquoi le Parti Socialiste a dressé, il y a 2 jours, de mémoire, ou 3 jours, effectivement, une contribution que nous allons porter à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, le 9 octobre, pour effectivement avoir, ne pas tomber dans aussi tout ce qui est fausses informations, exagération en ce qui concerne la question de l'immigration qui est pourtant cruciale. Comme il doit y avoir une planification écologique sur la question écologique, nous devons avoir une politique digne de ce nom en ce qui concerne l'immigration, sur un meilleur accueil des réfugiés dans notre pays, sur des potentielles aides, sur l'aide à l'apprentissage de la langue française, qui permet par effet domino d'avoir plus de facilité pour accéder au logement, aux droits, au travail. Et c'est sur C'est ce sur quoi nous voulons nous engager et proposer à l'Assemblée nationale. Nous allons convaincre un maximum de parlementaires pour aller dans ce sens, parce qu'il n'est pas possible aujourd'hui de considérer que des gens, quand bien même ils sont issus d'une autre nationalité que celle française, qu'ils puissent dormir dans la rue, ne pas avoir accès à des droits. Et pour être tout à fait honnête, la plupart de ces gens, parce qu'on parle d'immigration massive, mais je ne crois pas que nous sommes dans ce cas, nous avons effectivement des disparités démographiques, des mouvements de population, mais qui sont beaucoup moindres qu'elles n'ont pu l'être ces dernières décennies, et il faut d'emblée s'attaquer à ces problèmes, puisque si effectivement on considère que certains, au nom de leur nationalité ou de leur origine, doivent être moins bien considérés que d'autres, eh bien on tombe facilement dans des travers de racisme, et c'est ce sur quoi nous voulons combattre.
Alors il y a une tension de la société envers l'accueil justement des réfugiés. On le voit, on a vu ici en Bretagne, à Calais, ces années passées, ces mois passés, c'est difficile. Est-ce qu'il y a une peur qui est souvent liée aussi à l'insécurité? On va en parler aussi de l'insécurité parce qu'elle est là. On pense immédiatement au trafic de stupéfiants à Marseille, mais aussi chez nous en Bretagne, hein, dans quelques villes. Voilà, il ne s'agit pas de noircir le tableau, mais on a souvent reproché à la gauche, par exemple, de ne pas avoir assez pris en main ces questions de sécurité, d'avoir un peu laissé faire, pour prendre un terme qu'on entend parfois. Est-ce que là aussi, il va falloir changer de cap ?
Bien sûr, changer de cap, disons, en parler plus avec nos mots, nos valeurs, ce que nous portons, d'avoir peut-être une société de la sécurité, de la prévention, de la police de proximité, voilà, des choses en fait qui apaisent et qui ne polémique pas, ne brutalise pas aussi le débat politique qui, parce que la droite et l'extrême droite s'en donnent à cœur joie, hein, ils utilisent la sécurité pour en faire leur beurre sur le dos effectivement de gens qui souffrent parfois effectivement, vous avez parlé des dealers dans les quartiers populaires, on doit s'attaquer frontalement effectivement aux dealers sans pour autant invectiver, par exemple sur le cas des drogues, le cas des consommateurs qui ne sont pas responsables d'une situation d'insécurité. J'aimerais dire aussi que on a parfois tendance à extrapoler le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité, ce n'est pas l'insécurité. Et donc, il faut bien saisir la différence entre les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, le sentiment d'insécurité est extrapolé par la droite et l'extrême droite pour effectivement faire, pour en faire des propositions, je le disais, des fois au bord du racisme, ou voilà, des choses assez extrêmes qui sont plutôt inenvisageables en fait dans la réalité. Et effectivement, la gauche doit s'emparer de ce sujet pour apaiser ce débat et amener de la pondération, de la vérité dans toutes ces questions qui sont tout aussi importantes effectivement que le pouvoir de vivre, l'écologie, et qui doivent permettre à chacun de nos concitoyens de vivre dignement.
Apaiser la société finalement qui est aujourd'hui assez fracturée, il s'agit de voir les réseaux sociaux, de lire les réseaux sociaux, même si c'est pas forcément parole d'évangile, si vous me permettez le terme, essayer de redonner un espoir à cette société qui a aujourd'hui perdu espoir, il faut bien le dire. Les nouvelles sont pas toujours bonnes. On l'entend même sur notre antenne le matin.
Oui, oui, bien sûr. Et là, on va rentrer dans l'élection européenne. On va essayer de porter des sujets aussi, de parler de tous les sujets évidemment, mais de porter des sujets qui amènent aussi à l'espérance. L'Union de la gauche et des écologistes, quand elle fut fructueuse, disons, l'an passé, et qu'elle marchait bien tout droit dans un sens, portait un certain nombre d'éléments pouvant prêter à espoir dans les milieux ruraux, dans les quartiers populaires, que sais-je, un petit peu partout. Nous avons été premiers à l'élection législative au premier tour. C'est dire que ça a suscité l'espoir. Et donc, il faut continuer en ce sens, continuer à porter, disons, ce programme heureux, disons, ces jours heureux auxquels nous aspirons. Et c'est ce sur quoi nous voulons nous engager. Nous sommes évidemment engagés pour cela, et nous devons poursuivre, je le disais, au lieu de nous invectiver, ce travail de fond, ce travail programmatique, peut-être effectivement d'opposer l'acte 2 de la NUPES, de l'Union de la gauche. Je le dis assez souvent, mais ça me paraît assez crucial dans la mesure où effectivement toutes les composantes de la gauche doivent être à l'aise dans l'Union pour poursuivre effectivement ce dialogue, cette quête de l'espoir permanent auprès de nos électeurs et nos électrices. Et la perspective de l'Union de la gauche en 2027 ne doit pas être perdue en ce sens. Nous devons poursuivre le récit de l'Union de la gauche pour poursuivre l'espoir que nous suscitons.
Alors, il y a une huitaine de jours, à Morlaix, les socialistes faisaient leur rentrée. Beaucoup de choses. Alors, là aussi, hein, on aura passé de temps pour tout détailler. Mais on a senti quand même une forme d'émulation, si vous me permettez, là aussi, le terme. Est-ce qu'on serait en train de revivre le retour d'un socialisme qu'on avait un petit peu oublié?
Oh, je crois pas. Et c'est vrai qu'il y a... Alors, il y avait beaucoup d'invités à Morlaix, hein, pour dire un petit peu les choses pour nos auditeurs. Pardon. Il y avait effectivement beaucoup de monde. On était près de 300 socialistes présents à Morlaix. Il y avait beaucoup d'élus bretons. Alors, c'était le retour un petit peu de l'unité socialiste le temps de quelques heures, avec dans la même salle Loïc Chesnais-Girard, président de la région, Nathalie Appéré, maire de Rennes, Isabelle Assy, maire de Quimper, François Quillande, maire de Brest, tous nos parlementaires bretons. Évidemment Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, Emma Rafovitch, président des Jeunes Socialistes, tout plein de personnalités issues de l'extérieur ou non, et même Martin Schulz, ancien président du Parlement européen tout de même. Effectivement, des gens qui, pour certains, effectivement appartenaient à ce qu'on pourrait appeler une forme de passé, hein, et encore, moi je trouve que certaines personnalités issues du monde ancien, du monde, je ne sais plus comment on dit, mais
du vieux monde,
je pourrais citer Marie-Lise Lebranchu, ancienne maire de Morlaix et ancienne ministre, mais qui pour autant était, moi qui je trouve, est complètement dans... la vision de l'avenir ce sur quoi nous devons nous engager. Donc c'est pas la question de l'âge ou de la question de l'ancienneté de l'engagement qui prime sur effectivement notre vision de l'avenir. Il y avait aussi tout plein de personnalités issues de l'avenir du Parti Socialiste. Je pense à Chloé Ridel, porte-parole du Parti Socialiste, et évidemment Emma Rafovitch, présidente des Jeunes Socialistes. Il y avait un certain nombre de jeunes socialistes.
Il y avait en fait
plusieurs dizaines.
Un mélange des générations.
Présents, un mélange des générations. Et c'est ça, toute la force du Parti Socialiste, c'est effectivement des jeunes qui s'engagent, qui ont des idées un peu neuves, un petit peu, qui viennent bousculer leurs anciens, mais en même temps des anciens qui viennent aussi un petit peu nous adoucir, je vais pas dire nous lisser, mais en tout cas nous conseiller.
Limiter un peu la fougue de la jeune génération.
Et oui, bien sûr, bah, pas forcément imiter, mais en tout cas...
Limiter la fougue de la jeune génération.
En tout cas, voilà, nous faire part de leur expérience, c'est toujours enrichissant pour nous, et effectivement, on propose toujours, ça ne nous empêche pas de proposer des idées novatrices, de venir toujours un peu bousculer nos anciens et de les pousser dans leur retranchement, parce que c'est ça aussi la force du Parti Socialiste, et c'est ce qui devrait être la force de chacun de nos partis pour asseoir la représentativité de nos citoyens, c'est d'avoir dans chaque parti effectivement des gens plus ou moins jeunes, des hommes, des femmes, des gens qui travaillent dans les usines, dans les champs, comme des cadres. C'est ça qui fait la force aussi de l'intelligence collective à laquelle nous aspirons, un véritable front de classe pour gagner et changer la vie des gens.
Sur le fond, il y a eu beaucoup d'échanges d'idées. Là aussi, hein, ce serait un peu fastidieux de tout balayer en quelques minutes. Mais cet échange d'idées, on a le sentiment que ça redonne un petit peu de pêche, si vous me permettez, là encore, l'expression, au Parti Socialiste. Est-ce que finalement, le Parti Socialiste avait besoin de se ravigorer un petit peu? Voilà, pour reprendre sa place, hein, on pourrait le dire comme ça.
Bien sûr, et le Parti Socialiste se revigore depuis maintenant quelques mois, notamment depuis le Congrès de Marseille. On a effectivement, depuis cette stratégie de l'Union de la gauche, qui a suscité une dynamique autour de nous et aussi grâce au travail qui a été fait par Olivier Faure et ses équipes. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de personnalités engagées sur des sujets bien précis. Je pense notamment à l'écosocialisme avec Chloé Ridel, porte-parole, j'en parlais, qui était présente à Morlaix. Je pense aussi à Stéphane Ravaclet, qui est artisan boulanger, qui avait fait une grève de la faim pour défendre l'un de ses apprentis en Franche-Comté l'an passé pour lui permettre d'avoir des papiers pour poursuivre son travail dans sa boulangerie avec lui. Voilà, on a un certain nombre de personnalités, de gens issus aussi de la réalité, du terrain, qui viennent enrichir un petit peu nos rangs, qui viennent surtout enrichir nos réflexions dans la perspective des scrutins futurs. Je pense aux européennes, ces gens-là auront effectivement un rôle important dans le cadre des élections européennes, et moi je me satisfais tout à fait de voir l'arrivée de ces gens. Je pense aussi à Emma Rafovitch, présidente des Jeunes Socialistes, qui travaille d'arrache-pied depuis maintenant plusieurs années pour remonter une maison pleine, entière, crédible, disponible des jeunes socialistes à l'échelle nationale. Et tous ces gens auront un rôle à jouer dans le cadre des élections européennes. Ils portent des propositions, des valeurs que, effectivement, tous les anciens du Parti Socialiste n'aurait peut-être pas eu. Et c'est toute cette diversité qui, effectivement, montre notre crédibilité politique à porter des propositions et à changer véritablement la vie des gens.
Alors, on est aujourd'hui dans cette perspective des élections européennes. Et puis, on parle déjà un petit peu dans les médias, un petit peu partout. Voilà, il y a même des sondages, paraît-il, pour essayer de se dire qu'est-ce que sera le paysage au moment où il va falloir, paysage politique, au moment où il va falloir choisir un nouveau président. Là, on entend des noms, on voit des gens. Bernard Cazeneuve est venu à Saint-Brieuc. Est-ce que ça appelle, pour vous, un commentaire c'est devenu de Bernard Cazeneuve, allez, j'allais presque dire de cette ancienne gauche, pardonnez-moi le terme.
Oui, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas un fan absolu de Bernard Cazeneuve. Il y a un certain nombre de choses qu'il a faites au cours du quinquennat Hollande, ou qu'il a soutenues, qui effectivement nous mettent un petit peu hors de nous, surtout les jeunes socialistes, nous, qui avons aussi combattu un certain nombre nous avons combattu le bilan de François Hollande dans la plupart de ses dispositions. Nous sommes, disons, attaqués frontalement à des personnalités comme Emmanuel Macron, Manuel Valls, qui ont, d'une certaine manière, je ne vais pas dire enterrer le Parti Socialiste, parce que nous sommes là et nous le faisons vivre. Qui ont décrédibilisé, en tout cas, ça c'est sûr, et qui nous ont laissé dans la mouise, faut le dire assez franchement, durant bien un quinquennat. Et je tiens mon chapeau à Olivier Faure et à tous ceux qui sont restés à l'époque pour remonter la maison, ouvrir la perspective de l'union de la gauche, ressusciter l'espoir et surtout faire tout un travail de... d'inventaire de ce qui a été fait au cours du quinquennat Hollande. Olivier Faure l'a fait dès en rentrant au Parti Socialiste.
Il a été très attaqué là-dessus.
Voilà, oui, bien sûr, mais je trouve que c'est essentiel et sain pour une démocratie, surtout une démocratie interne d'un parti, de dire bon, bah voilà, sur le quinquennat Hollande, où nous avons été en responsabilité, au pouvoir, nous ne reconnaissons pas telle loi qui a été votée. Le Parti Socialiste se désolidarise de ce qui a pu être fait. Je pense à la loi travail, je pense à toutes plein de dispositions qui ont été faites sous le quinquennat Hollande et qui, effectivement, n'ont pas aidé la gauche, puisqu'on en a vu les conséquences. 6% en 2017 avec Benoît Hamon, 1,72% avec Anne Hidalgo en 2022. Et j'avoue ne pas trop comprendre comment des personnalités comme Bernard Cazeneuve puissent, en gardant, disons, cette position, j'allais dire, presque identitaire d'un socialisme passé, d'un socialisme ancien, dépassé, peut-être, d'une gauche, en tout cas, qui était au pouvoir et qui a été hégémonique, voir que quand elle est tombée à 72%, venir nous donner des leçons en disant « c'est comme ça qu'on va gagner », en gardant cette même position de la gauche dite, j'allais dire molle, mais c'est ce que je pense au fond de moi, mais cette gauche, ce qu'ils ont, ils aiment bien dire gauche, gauche de gouvernement, gauche sociale,
social-démocrate.
Je suis effectivement social-démocrate, laïque, universaliste, et je porte toutes ces valeurs. Mais pour autant, on ne doit pas se cantonner à, disons, cette vision identitaire que l'on a de penser qu'on est toujours plus fort que les autres. Le Parti Socialiste sans le reste de la gauche ne peut pas gagner, tout comme, j'allais dire, parce qu'on nous fait beaucoup le reproche, la France Insoumise sans le reste de la gauche ne peut pas gagner. Et donc, effectivement, on parlait des initiatives, des ambitions personnelles à gauche, que ce soit au PCF ou à la France Insoumise ou aux écologistes, que sais-je, pour effectivement les élections européennes ou plus tard pour les élections de 2027. Eh bien, je fais le même reproche à Bernard Cazeneuve qui, en présentant peut-être un nouveau mouvement et en tout cas préparer une potentielle candidature à que sais-je quelle élection, effectivement participe à la discréditation de la gauche, à la désunion de la gauche et de facto à entretenir le désespoir des Françaises et des Français qui ont placé beaucoup, beaucoup d'espoir en nous l'an passé pour gagner et changer leur vie.
Alors, il nous reste 3 minutes, me fait signe notre réalisateur, juste derrière ses boutons, derrière sa console. J'aurais voulu vous entendre, Alexis Bouchard, sur aussi le fait de cet espoir qui est suscité à gauche, mais qui manque peut-être d'un... Alors, j'allais dire d'une tête de liste, alors on ne va pas parler d'élection, mais en tout cas, d'une figure, d'une incarnation en son temps, François Mitterrand, fille de l'Union de la gauche, alors avec plus ou moins de succès sur la fin de l'Union de la gauche en l'occurrence, mais fille cette Union de la gauche, est-ce qu'il manque une figure aujourd'hui à gauche?
Alors c'est un petit peu le souci de notre... C'est un petit peu le malaise peut-être de notre régime, quelque part, de la Ve République, qui effectivement invite à ce qu'il y ait toujours cette figure de l'homme providentiel qui va tout de suite sauver en fait le reste du pays. Nous, on pense que on ne doit pas rentrer dans cette logique, alors potentiellement changer de République, effectivement, la parlementariser, comme on puisse dire, disons, donner plus de pouvoir effectivement au Parlement, et de facto, moi je suis aussi pour une décentralisation, disons, pour faire descendre dans les territoires aussi le pouvoir en donnant plus de compétences.
L'autonomie, on en parle aujourd'hui.
Aux collectivités territoriales, effectivement, aux régions, aux départements. L'autonomie, pour moi, n'est pas un gros mot, mais on doit le poser dans un cadre, effectivement, d'une République une et indivisible et décentralisée. On peut être tout à fait effectivement en prise avec les réalités du terrain, savoir quels sont les besoins des territoires pour effectivement agir plus efficacement et dans la justice pour les concitoyens. Donc en finir avec la figure de l'homme providentiel, ça veut dire que nous devons, disons, travailler un programme, puisque c'est toujours ça, comme, enfin c'est toujours comme cela que ça doit se passer pour nous démocrates, c'est-à-dire que c'est toujours le projet qui dicte une investiture à quelqu'un ou une alliance, que sais-je. Dans le cadre des élections européennes, il y a effectivement des pays dans lesquels plusieurs partis de gauche gouvernent ensemble, et pour autant, ils vont partir séparés aux élections européennes. Je pense en Espagne, le Parti Socialiste espagnol et l'Alliance de Gauche Radicale Sumar gouvernent ensemble le pays et changent profondément, radicalement la société espagnole, disons, dans le vent de la justice sociale et climatique. Ils vont partir séparés aux élections européennes. Cela ne veut pas dire que, l'espoir n'est plus permis, bien au contraire. Ces gens, ces partis, mais aussi en Allemagne, vont présenter un certain nombre de candidats de gauche en liste séparée, mais ce qui va compter à la fin, c'est effectivement de voir si le maximum de députés de gauche vont pouvoir entrer au Parlement européen. Donc l'incarnation viendra après. Voilà.
Alexis Bouchard, secrétaire national des Jeunes Socialistes, était avec nous en direct ce matin dans la matinale de Bretagne 5 pour nous parler évidemment de politique et de cette gauche qui renaît, on pourrait peut-être le dire comme ça. On a perdu Jean-Pierre Elkabbach cette semaine. Il y a eu des grands échanges entre Jean-Pierre Elkabbach et François Mitterrand.
Et bien sûr, avec d'autres, à droite comme à gauche. Voilà. Et c'est ce qu'il faisait. La personnalité de Jean-Pierre Elkabbach.
Voilà, c'est plus calme au micro de Bretagne 5.
Merci. Tant mieux pour moi.
Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin et belle journée.
Merci.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.